Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour. Alors cette semaine, nous sommes encore en compagnie de Mozart, mais je vais commencer par un petit hommage, si vous en êtes d'accord, à Yvette Horner. C'est une demande d'une auditrice et je suis bien d'accord avec elle. Yvette Horner était une grande musicienne. Je rappelle qu'elle est morte à l'âge de 95 ans, qu'elle était non seulement accordéoniste, mais également pianiste et compositeur. Et j'aimerais bien qu'on retienne d'elle autre chose que son image pittoresque, ou le fait qu'elle ait accompagné à 11 reprises la caravane du Tour de France dans les années 50, ou encore qu'elle ait été l'égérie de Jean-Paul Gaultier dans les années 80. Certains d'entre vous se rappellent peut-être de sa fameuse robe Tour Eiffel. Non, je voudrais simplement qu'on retienne d'elle que c'était une grande musicienne et qu'elle a souvent joué de la musique classique. Enfin, elle l'arrangeait, bien sûr, façon musette. Et puis, c'était cette partie de la musique classique qu'on appelle parfois musique de genre, vous voyez ce que je veux dire, le rêve d'amour de Liszt, la danse du sabre de Khatchaturian, les danses hongroises de Brahms et la marche turque de Mozart, j'y arrive, voilà, c'est raccord avec notre thème de la semaine. Donc nous écoutons Madame Yvette Horner tout de suite dans la marche turque. C'était bien sûr la marche turque façon accordéon par la grande Yvette Horner. Et puisque j'en suis au courrier des auditeurs, figurez-vous qu'après la première émission consacrée à Mozart, j'ai reçu un courriel de quelqu'un signant, Rudolf, auditeur et amateur de Toulouse, et me signalant une version stambouliote, c'est-à-dire d'Istanbul, de la dite marche turque. Alors c'est une version amusante qui est due à Seza, un rappeur né à Üsküdar en Turquie. Et même si vous ne parlez pas couramment le turc, je suis sûr que vous apprécierez son débit.
Ya bir öne gel, ya bir geri git. Ya da bana bırak hadi bu nasıl bir beat. Bir gün kralsın, bir gün varsın. Bir gün yoksun, bazen tok. Bu nasıl bir gün, bu yeni bir gün. Ve de bana neşe verebilecek bir gün. Her gün tekrar doğdum, bazen soğudum. Kaçtım kendimden, birden fazla yorucu olur. Dertler artar, sorunu bulun. Kimler çözmüş ki bu sorunu. Bizler bulsak da bu soruyu göremiyoruz, çözemiyoruz. Birileri iki geri yürüyoruz hep. Kimler gelmiş geçmiş sırlar var. Hep hiç çözülemeyen. Dünden kalmış ne var acaba. Çok tebrikler bulup alana. Tam bir yapboz hayat acımaz. Yoktur diyen bunu nasıl göremez? Tabi göremez, bakamadı hiç. Kafasını çevirip o yere gömer hep. Birden fazla bundan varsa artık yandı hep. İnsanlar insanlıktan çıkmış. Bazen gördüm gerçekten sen yok. Zannetsen de gerçek böyle her yerde. Haykırsan inletsen de asla duymaz hiç kimse. Hep anlatsan zannetmem ben duysun kimse bir yerde. Peri beni nerelere götürüyor, veremedim ara bile bana bunu getiriyor. Geri geri gidiyorum, arada bir sıkılınca adım atamadım ara tara. Hadi beni gelip al. Dere tepe koşuyorum, arası da sıkılıp elime de bir kalem alıp başlıyorum. Tepe dere deli gibi yürüyorum, gece gece kapa çene. Hadi bunu hece hece edip gelip al. Neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik? Atamadım adı kelimesi de ne geçmiş. Nerelere gelemedik acaba ve nereleri göremedik? Ve yanına varamadık hiç. Biri bana desin hadi bunun sonu nerelere var, neyin sonu? Bunu bana soruyorsun ama derin düşüneni külü kalır. Geri meri geri kalan iyi değirmeni çevirmeli mi? Hadi beni bunu başa alıp okuyalım ya da bunu başa koyup okutalım. Bu ne fayda? Hele bir de yolu kesenlere bir yol açın. Atı bile yarım adım ileride yürüyor. Kutu gibi dolu kafa beni deli ediyor ve sonu bile bile geri adım atamadığımız uçuruma gidiyorsak aman uzak olun, geri durun, yasak olan şeyler çok olur.
C'était la version stambouliote de la marche turque, enregistrée en 2012 par le rappeur César, à ma connaissance la seule marche turque mozartienne à faire entendre des paroles en langue turque. Alors il faut dire que les turqueries, c'est très à la mode en cette fin du XVIIIe siècle à Vienne, les Turcs étant en quelque sorte l'ennemi héréditaire des Viennois. Alors bien entendu, les Viennois ne connaissent pas grand-chose à la véritable musique turque. Non, ce qu'ils connaissent, ce sont les musiques militaires turques, les musiques des janissaires, avec leur rythme bien caractéristique, zim, zim, zim, zim, zim, zim, deux brèves longues dont vous venez d'être convenablement abreuvé au cours des deux précédentes versions de la marche turque. Tiens, d'une turquerie à l'autre, connaissez-vous l'ouverture de l'opéra L'Enlèvement au Sérail, toujours de Mozart, bien sûr. Dans cet ouvrage, à l'instar du Bourgeois gentilhomme de Molière, on s'intéresse de près aux mœurs turques, enfin du moins ce qu'on en imaginait à l'époque. Alors l'action de L'Enlèvement au Sérail se passe bien évidemment en Turquie. Le Sérail, je vous le rappelle, étant le palais du sultan dans l'ancien empire ottoman. Cette fois-ci, le célèbre zim, zim, zim est incarné par la percussion qui entraîne dans son sillage rythmique tout le reste de l'orchestre. Le piccolo, le triangle, les cymbales et le grand tambour turc de l'ouverture de l'opéra L'Enlèvement au Sérail de Mozart scandaient le fameux zim zim zim des janissaires. Alors toujours au chapitre des turqueries, il y a la partie centrale du dernier mouvement du concerto pour violon numéro 5 en La majeure de Mozart. Un concerto composé à l'âge de 19 ans et sans doute son premier chef-d'œuvre. Vous y retrouverez notre rythme turc et j'ai choisi pour vous le faire entendre une version historique que j'aime particulièrement par le grand violoniste belge Arthur Grumio. C'était l'extraordinaire violoniste belge Arthur Grumio qui nous faisait entendre la Turquerie du troisième mouvement du concerto en la majeure numéro 5 de Mozart. Alors depuis le début de cette émission, je parle beaucoup de la marche turque, mais je vous dois une précision, chers auditeurs, c'est que cette appellation de marche turque n'est pas de la main de Mozart. Lui, il a tout simplement appelé le final de sa sonate en la majeure « Rondo à la turque ». Un rondo à la turque, alternant comme il se doit le majeur et le mineur, un rondo évoquant le triangle, la grosse caisse et les cymbales des musiques militaires des orchestres de janissaires. Alors vous pensez maintenant qu'il est peut-être grand temps de faire entendre enfin au piano la version originale de cette fameuse marche turque. Oui, pourquoi pas, le piano. Enfin, je sais que vous l'avez tous, chers auditeurs, dans la tête. Peut-être même vous avez essayé de le jouer quand vous y étiez petit. Ce n'est pas la peine que je vous fasse entendre maintenant la version originale de la marche turque « Va pour le piano », mais plutôt une sorte de transcription, de fantaisie, de paraphrase transcription d'une folle virtuosité due à l'extraordinaire pianiste russe Arkady Volodos, qu'il interprète lui-même dans un enregistrement de 1997. Et Arkady Volodos avait 24 ans lorsqu'il enregistra cette transcription enrichie de la marche turque, dont la vidéo dépasse aujourd'hui allègrement le million de vues sur Internet. Nous écoutions donc pour notre plus grand plaisir et passablement ébahi par son incroyable virtuosité, le pianiste russe Arkady Volodos exécuter sa propre paraphrase de concert sur la marche turque de Mozart. Alors l'une des œuvres les moins connues de Mozart est sans aucun doute son ironique marche funèbre du Signor Maestro Contrapunto. Écrite à l'âge de 28 ans, peut-être pour se venger des exercices de contrepoint sur lesquels il avait tant peiné au début de ses études de composition. Voilà une marche funèbre originale. Pensez-y le jour venu. On entend toujours Chopin ou Beethoven aux enterrements. Avec la petite marche funèbre de Mozart, vous verrez, vous épaterez vos amis. Une marche funèbre de seulement 16 mesures que nous écoutons maintenant au clavecin, dont on oublie parfois un peu vite qu'il était aussi l'un des instruments quotidiens de Mozart. C'était la marche funèbre del signor maestro contrapunto, un titre à la Satie mêlant avec malice le français et l'italien, une amusante pochade interprétée par le clavecinistes et chef d'orchestre néerlandais Ton Kopman, comme toujours d'une impressionnante acuité rythmique et justesse musicale. Et puisque je parle de ce mélange de langues européennes, saviez-vous que Mozart a écrit quelques mélodies en langue française, par exemple Dans un bois solitaire sur le texte d'un certain Oudard de la Motte? Le français était à la mode à la cour de Vienne, mais Mozart, on le sait, le prononçait particulièrement mal. Cela s'entend, vous allez voir dans cette mélodie. La prosodie s'en ressent. Dans un bois solitaire et sombre. Déjà, ça, c'est pas terrible, mais alors le deuxième vers, c'est encore pire. Je me promenais, l'autre jour. Oui, mais on oublie tout ça dans l'interprétation de la toujours merveilleuse soprano allemande Rita Streich, dont le mauvais accent français gêne ici d'autant moins que l'on peut même imaginer que c'est ainsi que Mozart aurait prononcé les paroles pour le moins licencieuses de cette amusante mélodie.
Dans un bois solitaire et sombre, je me promenais l'autre jour. C'était le redoutable amour, c'était le redoutable amour. J'approche sa beauté, me flatte, mais je devais m'en défier, mais je devais m'en défier. Il avait les traits d'une ingrate que j'avais. Il me blesse au cœur.
C'était Dans un bois solitaire, une mélodie, je le rappelle, écrite directement en français par Mozart, et c'était interprété par la grande soprano Rita Streich, accompagnée par l'excellent pianiste Eric Verba. Et maintenant, puisque nous avons commencé l'émission par l'évocation du célèbre tube de la Marche turque, je voudrais vous parler d'un autre grand tube de Mozart, je pense à sa valse favorite pour piano. Oui, parce qu'il y a un problème. Valse favorite. Ce titre ne peut pas être de Mozart. Déjà, on imagine mal Mozart écrire l'adjectif favorite sur l'une de ses compositions, dont ça ce sont les générations d'après, qui indiquent qu'une œuvre est favorite, mais certainement pas le compositeur lui-même. Mais alors encore moins donner le titre de valse à l'une de ses danses, parce que la valse, ça existait, bien sûr, c'était le tout début, mais enfin, vraiment, ce n'était pas ce que dansait, ce qu'écrivait Mozart. Mozart écrivait des menuets, des danses allemandes, voire des Ländler. Le Ländler, c'est l'ancêtre de la valse. Et c'est effectivement dans une série de 6 Ländler pour deux violons et basse, que Köchel 606 s'il vous plaît, composé l'année de sa mort par Mozart, que l'éditeur a été piocher les numéros 1 et 5, les a isolés et les a mis bout à bout pour confectionner la si célèbre valse favorite chère aux enfants et aux pianistes débutants. Une supercherie donc d'un éditeur français du 19e qui avait considéré, à juste titre il faut bien le dire, qu'une pièce de Mozart intitulée valse et a fortiori valse favorite, se vendrait beaucoup plus facilement qu'une série de Ländler, danse complètement tombée dans l'oubli au début du 19e siècle. Mais heureusement, la cellule investigation de la preuve par Z est là pour rétablir la vérité, et nous écoutons maintenant dans l'ordre prévu par le compositeur les 6 petits Ländler du Köchel 606.
Thank you.
Voilà, c'était les Cylindler pour deux violons et basse, que Shell 606, interprété par l'ensemble Wiener Mozart. Et j'espère que vous aurez reconnu, avec le premier et le cinquième de ces Cylindler, les deux parties de notre fameuse et apocryphe valse favorite. Alors, puisque nous en sommes au chapitre des danses, j'aimerais bien que l'on passe de la valse, enfin plutôt du Ländler, à la courante, une danse encore plus ancienne. Et figurez-vous qu'il y en a une, c'est une véritable curiosité que personne ne connaît, qui a été écrite pour le piano en 1782, donc à l'âge de 26 ans, par un Mozart qui vient de découvrir tout excité grâce au Baron van Swieten, la musique de Händel et de Jean-Sébastien Bach qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Vous imaginez la claque. Pendant un an, Mozart va se mettre à leur école, essayant de leur voler puis d'imiter leur secret de fabrication. D'où une suite pour piano restée inachevée et dont je vous propose maintenant d'écouter cette fameuse courante, une courante parfaitement musicale, fluide, naturelle, avec une grande question. Si je ne vous avais pas annoncé que c'était du Mozart, auriez-vous deviné en l'écoutant le nom du compositeur ? Nous écoutions la courante pour piano en mi bémol, une courante extraite de la suite que Shell 399 de Mozart, interprétée par le pianofortiste néerlandais Ronald Brautigam. Alors toujours au chapitre des curiosités, j'aimerais bien maintenant vous faire entendre un délicieux petit andante en fa majeur, écrit l'année de sa mort par Mozart pour un orgue mécanique, un orgue récemment installé par le comte Daimuller pour son cabinet de curiosités, lequel comte demande à Mozart d'écrire de la musique spécialement pour son orgue. Tenez, j'ai retrouvé justement une critique viennoise de l'époque dont j'extrais la phrase qui vient juste avant que nous n'écoutions cette si jolie musique. Dans la célèbre chambre de repos des Grâces se trouve un lit faiblement éclairé par des lampes d'albâtre, portant une belle dormeuse derrière laquelle s'élève la musique la plus délicieuse qui soit, spécialement composée tant pour le lieu que pour ce spectacle. C'était l'Andante en fa majeur pour orgue mécanique Köchel 616, une curiosité mozartienne interprétée par le génial Pierre Charial, dont l'orgue de Barbarie aura tout joué, de Bach à Stravinsky en passant par Chick Corea et Ligeti. Un grand salut amical. Et maintenant, une curiosité anachronique cette fois, due au grand compositeur norvégien Edvard Grieg, lequel se met en tête à la fin du 19e siècle d'écrire une partie de second piano destinée à enrichir certaines sonates de Mozart qu'il adore, mais dont il a peur qu'elles ne tombent dans l'oubli si on ne les dote pas de tout le confort harmonique moderne. Donc vous allez entendre maintenant le premier mouvement de la célèbre sonate dite facile, hein, en ut majeur, Köchel 545, mais à deux pianos. Un des deux pianos joue la partie originale de Mozart et le deuxième piano, la deuxième partie rajoutée par notre grand romantique. Thank you. interprété par Julie Adam et Daniel Herskovitch. Nous écoutions le premier mouvement de la célèbre sonate facile, la sonate en ut majeur de Mozart. Mais dans cette version tout à fait étrange et à mon avis assez savoureuse du compositeur norvégien Edvard Grieg, donc vous l'avez compris, l'un des deux pianos jouait note pour note la partie originale de la sonate, tandis que l'autre pianiste jouait cette seconde partie imaginée par notre grand romantique. Et maintenant, puisque je viens de prononcer le grand mot de romantique, écoutons l'un des mouvements lents les plus émouvants de tout Mozart. Un mouvement qui me fend le cœur à chaque fois que je l'écoute. Il s'agit du second mouvement du quatuor pour hautbois, violon alto et violoncelle. Un tapis de cordes émouvant qui semble vouloir consoler un hautbois fraternel et solitaire. Le si émouvant mouvement lent du quatuor pour hautbois et cordes, interprété par le grand compositeur et oboïste Heinz Holliger, un extrait de son album Métamorphose. Alors vous le savez, l'image de Mozart a considérablement évolué au fil des temps. Au 19e, c'était une sorte d'ange pur et innocent, un éternel enfant. Et puis tout d'un coup, au 20e siècle, à partir du film de Milos Forman, c'est devenu une sorte d'histrion, ricanant, passablement licencieux, voire avec de petites tendances à la scatologie. Alors ce n'est pas tout à fait faux, bien sûr, mais enfin il ne s'agit tout de même que de quelques petites pirouettes verbales, ne prêtant guère à conséquence, dont il parsème de temps à autre sa correspondance à sa famille, ou quelques petites pièces vocales qui composent à usage domestique pour être chantées à la fin des repas. Nous écoutons maintenant le canon vocal Bonanox, un mélange improbable d'anglais, d'allemand, de français, de latin et de dialecte autrichien, agrémenté de calembours douteux, Bonanox, Bista Rechta Ox, Nox Ox, Bonne Nuit, tu es un âne, sans oublier la chute finale, remonte ton cul jusqu'à ta bouche et fais de beaux rêves.
Bonanox, Bista Rechta Ox, Bonanotte, liebe Lotte, Bonne Nuit. Fui, fui, gute Nacht, euch müssen wir noch weit. Gute Nacht, das ist Metz, das kracht, gute Nacht. Schlaf ein gesund und reck den Arsch zum Mond.
Bonanox, bist du rechter Hochs? Bonanotte, liebe Lotte, Bonne. Fui, gute Nacht, heute müssen wir noch weit. Gute Nacht, gute Nacht, scheiß ist Bett, doch kracht, gute Nacht. Schlaf ein gesund.
Un étonnant quatuor vocal en forme de canon, c'était le Bonanox de Mozart, interprété par les sopranos Sandrine Pio et Valérie Gabaye, le baryton basse Frédéric Caton et le ténor Topi Letipou, un extrait de l'album Une soirée chez les Jacquins. Et maintenant, pour terminer dignement cette émission mozartienne, je vous propose un petit pas de côté avec une musique particulièrement vive, rythmique, colorée. Connaissez-vous le compositeur néerlandais Louis Andriessen ? Aujourd'hui âgé de 80 ans, il est considéré comme le pape de la musique répétitive hollandaise. Il marque son époque avec de magistrales compositions comme Destaat ou Destil, mais aussi en 1991 avec une œuvre plus malicieuse, intitulée M is for Man, musique, Mozart. Oui, la lettre M, donc, qui est la lettre initiale de ces trois mots. Man, musique, Mozart. L'homme, la musique et Mozart. Donc une musique écrite pour ensemble de cuivre, trois saxophones et piano. Alors les plus avisés d'entre vous y verront passer les fantômes des sonates en la mineur et en ut majeur pour piano.
Thank you.
Trépidant, inclassable, répétitif et passablement barré, c'était un extrait du M is for Man Music Mozart du compositeur néerlandais Louis Andriessen. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec Dorian Seigre. Chef opérateur du son, Marie le Peintre. À la semaine prochaine.